Bonsoir à tous, Abdourahman Dia au micro pour vous présenter votre émission à votre avis sur VOA Afrique. On va discuter ce soir de la problématique du foncier en Afrique. Le président libérien George Weah vient de promulguer une loi sur la propriété des terres. Selon cette nouvelle législation, seuls 10% des terres d'une communauté pourront être déclarées domaine public. Donc, seuls ces 10% peuvent faire l'objet d'une concession à des sociétés privées. Est-ce que cette situation de la gestion des terres se pose dans vos pays respectifs? Est-ce que vous pensez que cette décision du président Weah va régler la question de l'accès aux terres pour les citoyens? Alors, nous allons discuter de tout cela avec vous, les auditeurs. Je rappelle le numéro pour participer en direct, c'est le 001-202-205-26-33. On me dit qu'il y a déjà un auditeur, Alphonse Mbouaki, depuis Kinshasa. Bonsoir, Alphonse.
Bonsoir, Abdou.
Oui, alors vous avez réagi sur notre page Facebook. Vous parlez par exemple de la Chine qui vient prendre des terres aux nationaux. Vous avez évoqué plusieurs questions. Parlons d'abord de la question des investisseurs étrangers.
Vous savez, les investisseurs étrangers, quand ils viennent, ils sont en complicité avec le gouvernement. Lorsqu'ils veulent exploiter une terre, des terres parce qu'il y a des intérêts dans ces terres, ils pensent qu'ils dévertissent les populations sans que le gouvernement puisse réagir bien protéger les populations. Et beaucoup de citoyens sont jetés dans la rue sans terre parce que la grande puissance avec l'État qui trouve son intérêt là-bas chasse les populations. Chez moi, la province du Congo central, on a déjà connu cette situation-là, où une compagnie venue chasser les habitants parce qu'ils voulaient exploiter un sol parce qu'il y avait des minéraux. Donc, ici, chez nous, les terres appartiennent aux coutumiers, mais l'État a les dessus. L'État a les dessus sur les coutumiers. Quand il y a un intérêt, un projet d'intérêt public, là, l'État domine sur, sur les gens, sur les coutumiers. C'est problématique.
Oui, il y a la question du droit coutumier également. Disons, il y a ces deux aspects, le coutumier et également le régime moderne, dans plusieurs pays en tout cas.
Il y a souvent un conflit. Il y a un conflit entre les modernistes et les coutumiers. Les coutumiers disent que les terres appartiennent à eux, mais les modernistes, surtout les gouvernants, disent que c'est l'État qui a la mainmise sur tout.
Ouais, ce qu'on appelle dans certains pays le domaine national. Effectivement, il y a beaucoup de conflits. Vous restez avec nous, Alphonse. Nous avons un autre auditeur de la République démocratique du Congo, Ben Benoît Kabi, c'est ça? Ben?
Oui, allô.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous pensez que rien ne va changer en Afrique?
Oui, franchement, rien ne va changer en Afrique par rapport aux thématiques du jour et ce que le président général, je l'aurais appris comme décision. Moi, je trouve que c'est vraiment utopique. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe en Afrique est toujours dicté par les Occidentaux. Et chez nous...
Mais il n'y a pas que les Occidentaux. Alphonse, Ben, excusez-moi. Alphonse vient d'évoquer le cas des Chinois. Il y a d'autres aussi qui viennent un peu, selon les termes souvent des villageois, s'accaparer leurs terres, mais c'est avec souvent la bénédiction de l'État central.
Non, ce n'est pas cela. Moi, je suis en train de les contester. Moi, je veux dire que nos terres ici au Congo, elles sont les propriétaires des coutumiers. L'État arrive à s'imposer seulement. Comme la Constitution nous dit, le sol et les sous sont appartenant à l'État, l'État s'impose. Les Chinois étaient venus ici et ils ont commencé à s'investir dans des forêts partout. Pas. Là, nous avons vu complètement qu'ils étaient venus pour nous voler. Nous avons refusé et il n'y a pas encore un Chinois qui est en train de s'investir chez nous pour entrer dans des forêts autre chose. C'est les Congolais qui s'en prennent de leurs choses. Mais ce que nous demandons, que l'État puisse connaître la force coutumière afin que le terre puisse bien marcher. Sinon, avec notre force coutumière, qui est la coutume, ça dérange beaucoup de choses. C'est pour ça que vous ne voyez pas laisserai notre Congo avancer. À partir de cela, et vous trouverez toujours des problèmes avec nous. C'est pour cette raison que je viens de dire que rien ne changera à l'Afrique si on arrive toujours à ces références occidentaux. On retourne à l'authenticité, on verra que ça va marcher.
D'accord, merci beaucoup Ben. Alors, Alphonse, qu'est-ce que vous pensez de la réaction de Ben qui nous appelle aussi de Kinshasa? Alphonse, vous êtes là? D'accord, nous allons prendre Diarra Kanyoumé. Diarra? Diarra Kanyoumé, vous êtes en ligne? Je crois que... Oui, on vous écoute.
Ok, merci d'avoir de me donner la parole. Vraiment, à mon avis, je pense que vraiment, en Afrique, il faut imaginer qu'il y a des problèmes, des solutions et en Afrique par rapport à nos dirigeants africains. Sinon, l'Afrique, la terre africaine est riche, mais il faut imaginer que souvent, les investisseurs, quand ils viennent investir dans notre pays, il faut imaginer qu'au moins, si les dirigeants africains, vraiment, ils ne font pas leur boulot normalement. Sinon, par exemple, je prends un exemple, surtout dans mon village natal à Sonikene, il y a un carrière qui est ici par rapport à la société de Razel. Donc, je pense qu'ils ont leur carrière sur nos collines, mais ils ne viennent pas investir dans nos villages sans parler certaines conditions avec les chefs de village, avec les habitants du village. Donc, il y a des consignes qu'on signe d'abord avant qu'ils vont au moins commencer à faire le boulot. Donc, si tout le monde a fait comme ça, je pense que vraiment, il y a certaines choses qui se passent en Afrique par rapport à les investisseurs. Donc, je pense que le problème va résolu par rapport à beaucoup de choses. Sinon, il faut imaginer que vraiment, les investisseurs viennent, mais et les dirigeants africains vraiment.
Diarra, oui. qui sont ces investisseurs en général qui viennent dans votre région?
C'est les investisseurs européens par rapport aux Français. Il y a des investisseurs français qui sont là, les Suédois qu'on appelle Razel. Donc, ils ont signé au moins 50 ans de travaux, surtout dans nos collines ici. Donc, on a signé les consignes. Donc,
est-ce qu'il y a des jeunes de la localité qui trouvent du travail dans ces sociétés d'exploitation minière ou de minerai? Parce que c'est souvent aussi une autre complainte.
Oui, effectivement, on a parlé tout ça avant qu'ils vont commencer les travaux. Donc, il y a des habitants, les jeunes d'habitants, ils sont en train de travailler dans ces sociétés jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense que vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent ici et ça se passe normal. Même les chefs des villages ont gagné leur part dedans. Même les sociétés qui est basée la colline, donc les gens des habitants et leurs champs, ça est là-bas, donc et tous. Ils ont eu leur part par rapport à au moins certains mois et leur l'argent, ça se trouve à la maison. Donc, je pense que c'est plusieurs.
Oui. Bien, avant de vous laisser partir, est-ce qu'il est facile pour un Malien comme vous, disons dans votre région, d'avoir des terrains en son nom, en leur nom? Par exemple, est-ce qu'il est facile d'immatriculer une parcelle qui vous appartient, qui vous a été léguée par vos grands-parents, vos parents?
Oui, effectivement, les parcelles sont identifiées. Donc, les parcelles que la société a pris de travailler sur cette parcelle, je pense que ceux qui ont leur parcelle dedans et leur nom, tout est identifié. Donc, on a signé un contrat avec eux. Au moins, c'est chaque 5 ans, donc ils touchent, gagnent leur somme dedans. Donc, je pense qu'il n'y avait pas de problème à part là. Donc, si tout le monde fait comme ça, je pense que les habitants des villages aussi, dans les quartiers, gagnent leur part dedans. Donc, je pense que là, au moins, aussi, ça va. Voilà, voilà, effectivement. Merci donc, beaucoup, à mon avis, je pense que pour le moment, il n'y a pas de problème avec entre eux, à mon avis, Abdraman.
D'accord, merci beaucoup, Diarra Kanyoumé. Nous avons Steve Boko depuis Abidjan, c'est ça?
Oui, bonsoir, monsieur le journaliste.
Bonsoir. Quelle est la situation en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est facile d'accéder à la terre, si on peut le dire ainsi, ou en tout cas d'avoir une immatriculation de ces terres?
Sans adopter la langue de bois, je vous répondrai tout simplement que c'est vraiment difficile de posséder une terre ici en Côte d'Ivoire. Oui, il y a tellement de tracasseries que c'est pas, même nous qui sommes ici, vraiment c'est difficile. Obtenons certaines terres pour pouvoir faire un peu de nos cultures agricoles. Donc, pour cela, je pense très bien que nos dirigeants doivent essayer de pencher un peu du doigt vers ce secteur, en vue de nous donner aussi un ouf de soulagement.
On voit que l'arrivée massive d'investisseurs étrangers ou même nationaux, hein, il faut le dire, il y a des investisseurs nationaux qui sont pointés du doigt. Ces investisseurs, de manière générale, s'intéressent aux terres, soit pour des projets immobiliers, soit pour investir dans l'agriculture, ou alors simplement pour exploiter des minerais qui sont découverts dans ces localités. Et malheureusement, des villageois sont délogés pour faire place à ces investisseurs qui ont de gros moyens. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez un peu en Côte d'Ivoire, dans certaines localités?
Oui, cela, nous vivons cela. Parce que même auprès de moi, parce que moi je suis un peu à l'est du pays, précisément à Bengourou. Oui, il y a un fleuve, il y a un petit fleuve qu'on appelle Komoé. Le fleuve Komoé, au bord de ce fleuve, plein de ces investisseurs viennent même, ils sont venus acheter des terres pour pouvoir exploiter même, comment on appelle, de l'or, des orpailleurs. Oui, c'est pas, pourtant l'État nous dit à chaque fois qu'il va faire tout son possible pour pouvoir éviter ces orpaillages.
Mais en même temps,
ils n'ont pas des dispositifs fiables pour éviter comme cela. Moi, sincèrement, ça me déplore souvent. Souvent, les décisions qu'ils prennent, c'est souvent utopique. Nous voyons que ce qu'ils ne peuvent le faire, il ne faudra qu'ils nous proposent cela. Oui, il y a des réactions.
Mais Steve, la critique aussi, en tout cas la justification, c'est que aussi nous avons des populations autochtones dans les zones rurales qui ont des centaines d'hectares de terre, mais qui malheureusement n'ont pas les moyens de les exploiter. Est-ce que ça n'a pas un peu de sens de faire de laisser la place peut-être à ceux qui ont les moyens de les exploiter? Vous n'êtes pas d'accord avec cette explication?
Non, parce que ce qui vous appartient, même vos descendants viendront exploiter cela. Et si nous vendons,
je comprends. Je comprends très bien ce que vous voulez dire.
Donc pour cela, même s'ils n'ont pas assez de moyens pour le moment, peut-être demain, ceux qui viendront auront les moyens pour pouvoir exploiter ces terres. Ce n'est pas forcément que nous n'avons pas les moyens que nous allons vendre ça aux allogènes. Oui. Donc je pense très bien qu'il doit falloir que nos états doivent essayer de revoir un peu, en vue de nous donner un ouf de soulagement que de pouvoir voir nos terres aux allogènes, car la terre est la culture africaine.
Oui, en tout cas, selon la nouvelle loi au Libéria, seuls 10% de ces terres d'une communauté bien donnée, seuls ces 10% peuvent être vendus à des sociétés privées. Donc, ça pourrait permettre aux populations autochtones de profiter un peu de leurs terres. Merci beaucoup, Steve Boko depuis Abidjan. Nous avons Hassan Omar depuis Djibouti. Bonsoir.
Bonsoir à tous les auditeurs aussi.
Oui, on vous écoute, Hassan. Quel est votre point de vue sur la question du jour?
Moi, je crois que la question de foncière, c'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre en Afrique, parce que nous avons la modernité et le traditionnel qui se confrontent.
Absolument.
Oui. Qui se confrontent. Donc, nous avons une population qui sont sous un peu nomades ou pasteurs ou autochtones qui ont une option ou une conscience pour eux que la terre est sacrée. Donc, il y a ce problème-là. Il y a des industriels aussi qui veulent investir. Et la question qui se pose, c'est quelle est la part de responsabilité de l'État? C'est l'État qui devait gérer ces problèmes-là, voilà, en réconciliant entre les citoyens ordinaires, qui est le villageois, qui est dans son village, et une industrie qui arrive et qui veut construire le pays, le développement. Donc, avec le système le phénomène de la globalisation. Donc, il fallait trouver une solution. Et il fallait donner aussi la priorité aux populations, aux citoyens ordinaires, aux populations qui sont qui vivent sur ces terres-là.
Peut-être dû au fait que nos grands-parents n'avaient pas cette culture d'aller faire enregistrer leurs terres au niveau du cadastre. Et oui, certains peut-être ont profité de cette ignorance.
Oui, tout à fait. Par exemple, je prends un exemple très simple. Lorsque la France, les Français ou la France a quitté Djibouti, par exemple, il y avait des villas ou des bâtiments, des immeubles qui se sont vidés. Donc, par exemple, il y a certaines communautés de djiboutiennes qui vont les remplacer, mais d'autres ont essayé de trouver des mamies et voilà, ils ont inventé des notions religieuses pour leur dire qu'on ne peut pas habiter dans la maison d'un chrétien, et lorsqu'ils sont donc échappés ou l'ont laissé tomber, c'est qu'ils se sont profités. Donc ils sont aujourd'hui des propriétaires fonciers très riches. Donc il y a cette notion d'avoir cette conception mentale, mais la question, moi ce qui est très important de la solution, c'est de créer des commissions entre les industriels qui veulent investir et les gens qui sont de ces pays-là ou de ces terres-là et qui doivent avoir de revenus, mais aussi des bénéfices, soit dans l'éducation, dans la santé. Les industriels doivent construire le village, apporter l'électricité, l'éducation, la santé. Donc trouver une fraternité entre l'industriel et le villageois. Donc c'est possible, mais toujours la terre doit appartenir à ces personnes-là parce que c'est chez eux. Et il ne doit pas être exploité.
Hassan, jusque-là, depuis le début de l'émission, on parle beaucoup de cette question foncière en milieu rural, mais en milieu urbain, c'est également un véritable problème, puisque souvent ce qu'on voit, c'est des conflits entre des personnes, 10 personnes qui se disent propriétaires du même terrain. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez à Djibouti?
Oui, ça existe, c'est du général en Afrique, ça aussi ça existe, ça dépend aussi du secondement. Il y a des gens qui sont corrompus dans l'administration.
La corruption joue beaucoup aussi dans ça, n'est-ce pas?
Oui, dans l'administration, il y a des gens qui sont corrompus. Par exemple, ils vont donner un terrain ou une parcelle à une personne, une tierce personne, et après, ils vont dire, ils vont donner une autre personne. Donc, et chacun, il a un papier pour ce terrain-là. Donc, c'est un problème, c'est la corruption, elle est due à la corruption. Donc, il faut essayer de trouver des solutions, mais l'Afrique appartient aux Africains, voilà.
Voilà, merci beaucoup Hassan. Depuis Djibouti, un grand bonsoir à tous nos auditeurs là-bas. Nous avons Jodoné depuis la Zambie, c'est ça?
Jodoné? Oui, je suis en Zambie.
Oui, vous dites que la promulgation en est une, l'application en est une autre. Vous pensez que ce sera difficile de mettre en application cette mesure?
Exactement, parce que c'est mieux de pouvoir signer ou bien prendre un décret. Je prends le cas de notre pays, la RDC, parce que c'est de là que je vis. On verra des décideurs qui sont en mesure de prendre une décision, mais quand on arrive à l'application, c'est autre chose qui va se passer, entre autres des investisseurs qui viennent de part et d'autre, qui prennent tout ce qui est pour les autochtones. Ce qui fait qu'on a une recrudescence de jeunes et de banditisme qui s'accroît à grande échelle. Voilà la difficulté qu'il y a.
Surtout votre pays, qui est un pays très riche en minerais. Donc forcément, il y a des conflits entre des villageois et ceux qui viennent y exploiter ces ressources.
Exactement, c'est le cas de le dire. Parce que là,
mais qu'est-ce que fait le gouvernement en fait pour protéger ces villageois?
Oui, mais tantôt là, j'ai entendu un interlocuteur qui parlait de la corruption. Tous ces gens-là qui ont la décision à pouvoir protéger les autochtones ne sont pas en mesure de pouvoir le faire à cause de ce qu'on appelle dans le jargon congolais kanyaka. Donc, quelque chose qu'on leur donne qui veut dire un pourboire. Je veux dire aussi les avantages qu'on donne aux étrangers, que, contrairement à ceux qui sont propriétaires de tous ces terrains-là.
Dieudonné, est-ce qu'il y a un mécanisme qui permet, si par exemple on découvre du cobalt dans une localité particulière, c'est quand même important, est-ce qu'il y a un mécanisme qui permet au gouvernement de reloger les populations qui étaient sur place sans que ces populations n'en souffrent, en fait, une délocalisation, disons, gratuite pour ces gens-là? Peut-être que ça devrait exister.
mécanisme, c'est bien dit, mais c'est l'application qui est différente.
Qui pose problème.
Qui est difficile, qui pose problème. Je dirais, je peux prendre un cas d'un lycée qu'on devait démolir, comme quoi il y avait un filon de cuivre qui passait en dessous de l'établissement. Ça posait un grand problème par rapport aux avantages que les investisseurs voulaient proposer aux sœurs qui géraient cette institution. Alors, la chose n'a pas été faite parce que la mainmise par rapport à l'extérieur était un peu plus puissante. C'est comme ça que cette école-là n'a pas été détruite.
En tout cas, merci beaucoup, Dieudonné Kitabungi, depuis la Zambie, notre auditeur congolais qui vit en Zambie. Et on a en ligne de Conakry, Tierno Diallo. Tierno, bonsoir.
Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir à l'ensemble de vos auditeurs.
Oui, vous avez un peu le même problème en Guinée, disons, l'accès aux terres, les conflits avec des investisseurs.
Oui, tout à fait. Vous savez, l'affaire des sœurs, c'est quelque chose qui va toujours créer des remous et des problèmes parce que chaque fois on promulgue des lois. Si on prend l'exemple de la Guinée, nous avons des meilleurs textes de la sous-région. Mais jusqu'à présent, les citoyens n'arrivent pas à faire la différence entre l'État et les propriétaires coutumiers qui appartiennent les sœurs parce qu'il y a certains endroits du pays. L'État a dit ici. C'est un jeune réservé, mais en même moment, les propriétaires sont là à les revendre en disant qu'ici, appartenant à notre arrière-arrière-grand-père, ce n'est pas à l'État de nous dicter ce que nous devons faire à nos terres. Donc, c'est quelque chose qui crée beaucoup de problèmes parce que ces coutumiers-là imposent des gens, on les revend là-bas. Une fois que vous êtes là, vous êtes jugé 10 ans, 15 ans après, l'État vient pour vous déguerpir. Donc,
est-ce qu'il y a des dédommagements souvent? Non. Mais c'est un peu le problème entre la cohabitation des régimes, disons, coutumiers et modernes dans beaucoup de pays, comme on l'a constaté au cours de cette émission.
Oui, tout à fait. C'est un sérieux problème parce que dans certains endroits, les gens n'arrivent pas à reconnaître que la terre appartient qu'à l'État. C'est à l'État de donner le titre foncier et autres. Une fois que les chefs coutumiers qui sont là vous donnent des parcelles de terre, vous êtes automatiquement installé sans savoir que si vous n'avez pas
le titre foncier,
même si c'est 20 ans ou 30 ans après, vous n'avez pas le droit de rester. Une fois que l'État aura besoin de ces parcelles, vous serez obligé de partir. Il y a eu dans plusieurs endroits du pays, donc il y a eu dans certains endroits là où l'État a déguerpi les citoyens, mais malheureusement pour eux, les citoyens n'avaient pas de titre foncier, donc tu ne pourras pas faire de poursuites judiciaires contre l'État parce que tu as installé là illégalement durant des années. Donc,
d'accord.
C'est quelque chose qui est très grave dans certains pays, dans certains endroits, régions du pays aussi. Il y a certains là où il y a de l'or et autres, chaque fois il y a des affrontements.
D'accord, merci beaucoup.
C'est ce qui cause beaucoup
merci
de
beaucoup,
problèmes.
Merci beaucoup, Tierno. Nous allons peut-être prendre notre dernier auditeur, Bakary Keïta, rapidement. Bakary, bonsoir. Bakary, vous êtes en ligne? Non? Sinon.
Bonsoir, Abraham.
Oui, bonsoir, on vous écoute.
Oui, moi, je crois que si je prends le cas du Mali, par exemple, les sociétés d'exploitation, il y a pas mal de sites ici, que ce soit à Sadiola, à Mourla, à Yatela. Vous voyez que ces compagnies, quand même, signent, c'est-à-dire un accord avec le gouvernement, mais la population aussi a une part là-dedans, parce que la population a un quota lors du recrutement, quand même, du personnel. Ensuite, la compagnie signe aussi des accords avec le village, notamment la création vraiment des routes, des écoles, voire même des hôpitaux. Vous voyez.
D'accord.
Mais en cas de conflit, l'État ne protège pas totalement vraiment le village. Hein.
D'accord. On a bien compris, Bakary Keïta, depuis Bamako. Merci à tout le monde. Merci spécialement à Michel Joseph, Firmin Koyaveda et Wojtek Zorniak. Dans quelques secondes, une autre édition du Monde aujourd'hui avec Eki Abadou. Au revoir.